d'entre vous, Dieu vous bénisse. On va continuer avec des paraboles. Mais ce matin, je voudrais qu'à la place de lire une parabole, on lise dans Luc chapitre 1 et versets 46 à 55. C'est un texte que les chrétiens évangéliques laissent de côté un peu trop, je trouve. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. » Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Il a rassasié ceux qui ont faim et il a renvoyé les riches à vide. Voilà ce que Marie, la bienheureuse Marie, a dit sous l'onction du Saint-Esprit alors qu'elle était chez Élisabeth et Zacharie qui allaient devenir les parents de Jean le Baptiste. Plusieurs dizaines d'années plus tard, Jésus a repris cette phrase, cette pensée dans une de ses paraboles, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Vous vous rappelez que Marie avait dit cela. On trouve ça dans Matthieu chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » La quatrième béatitude sur la montagne, c'est celle-là. Marie a dit en plus, il a renvoyé les riches les mains vides. Ça va sans dire que puisque ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés, eh bien ceux qui ont acquis des biens d'une façon malhonnête, ils repartiront les mains vides, ceux qui n'auront pas été justes. Frères et sœurs, comme Jésus, elle associe les pauvres avec ceux qui sont bénis. Rappelez-vous de ce que j'ai dit sur les pauvres. N'allez pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Il faut que vous écoutiez les prédications qui précèdent celle-ci afin de savoir de quoi Jésus parle quand il parle des pauvres. Il ne parle pas des mendiants, par exemple. Hein. Ce n'est pas de ça dont il est question. Elle associe les pauvres avec ceux qui sont bénis et elle associe les pauvres à ceux qui ont faim et soif de justice. Dans cette quatrième béatitude, on trouve en fait le principe général du royaume de Dieu. Vous savez que le royaume de Dieu, sur la terre, c'est son Église. Et puis ensuite, son Église va être enlevée. Et puis, ça sera dans le royaume des cieux, à ce moment-là, qu'il y aura les noces. Et puis, 7 ans après, on reviendra et on régnera sur cette terre pendant 1000 ans avec notre Seigneur. Et puis ensuite, cette terre sera détruite et après, il n'y aura plus que le royaume des cieux qui s'exercera sur la terre avec les nouvelles choses qu'on va créer avec notre Seigneur. Dans cette quatrième béatitude, on trouve donc le principe général, les affamés et les assoiffés à qui Dieu fait droit, ce sont ceux qui ont faim et soif de justice. De justice. Cette faim et cette soif, elles caractérisent les disciples de Jésus-Christ. Elles caractérisent ceux qui font vraiment partie du peuple de Dieu. Ils ont une ambition. L'autre jour, je vous disais, moi, je n'ai pas d'ambition. Non, je n'ai pas d'ambition terrestre. Mais ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ ont une ambition suprême. Elle n'a rien de matériel, elle n'est pas d'ordre matériel. L'ambition suprême du véritable disciple de Jésus-Christ, elle est spirituelle. Alors évidemment, puisqu'on est dans la matière, ça touche aussi notre environnement matériel. Mais c'est premièrement les choses du royaume, la justice, les choses du royaume de Dieu qui est notre ambition première. Alors, qu'est-ce que la justice ? Dans la Bible. Dans la Bible, il y a au moins 3 aspects de la justice. Il y a la justice légale, il y a la justice morale et il y a la justice sociale. La justice légale, c'est la justification. Dans la nouvelle alliance, c'est le rétablissement de la relation avec Dieu par Jésus-Christ. On sait ce que Paul a écrit là-dessus, si du moins vous allez dans les Écritures pour lire. Il disait que les Juifs, eux, ils cherchaient la justice, donc ceux qui sont dans l'ancienne alliance sous la loi de Moïse, ils cherchent la justice et ils ne l'ont pas atteinte parce qu'ils cherchent mal. Ils cherchent mal. Ils ont cherché à établir leur propre justice. Mais pourtant, ils essaient d'obéir à la loi de Dieu. Oui, mais avec cette mauvaise intention, une mauvaise intention, celle d'être juste par rapport à. Paul écrivait, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Mais eux, ils ont fait... Dieu avait dit, par exemple, de faire des sacrifices, mais c'est devenu un commerce. C'est devenu une abomination. Dieu, au bout d'un moment, il en a eu marre. C'est devenu une tradition. Dieu a été obligé de dire, j'en ai marre de vos sacrifices, parce qu'ils ont tout corrompu. Alors Jésus est venu, Dieu a envoyé Jésus, Jésus est venu, et il a dit, c'est lui votre justice maintenant. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la justice personnalisée. C'est-à-dire, il est ma justice, il est votre justice. La justice qui était sur son compte, il est parfaitement juste de toute éternité, eh bien, elle a été mise sur mon compte, sur votre compte, à chacun d'entre vous. Si seulement vous pouvez croire, si seulement vous l'aimez, si seulement vous le suivez. Parce que croire en lui, ça veut dire aussi le suivre. Ça ne veut pas dire, je crois, puis voilà. Non, non. Je crois aussi à... Je crois à toutes sortes de choses qui existent, mais ça ne change pas ma vie, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a la justice morale. Celui qui manifeste la volonté de Dieu dans sa façon de se comporter, alors celui-là, il a une morale qui est juste. Or, Jésus oppose sa justice morale à celle des religieux de son temps, à celle des pharisiens. Il l'oppose. Il dit que leur justice, elle consiste à une conformité extérieure à la loi, juste pour une apparence, pour une apparence. Est-ce que ce n'est pas devenu la même chose dans les milieux chrétiens? Jésus dit que sa justice morale à lui, celle qu'il exige de ses disciples, c'est une justice de l'intérieur, non pas une justice de l'apparence, de l'extérieur, c'est une justice du cœur, c'est-à-dire une justice des motivations. Maintenant, est-ce que c'est bien de cela que Jésus parle? Parle-t-il d'une justice simplement qui nous met en bonne relation avec Dieu et qui nous met en bonne relation avec les autres seulement dans la vie de tous les jours? Pas seulement. La justice, selon le cœur de Dieu, elle va plus loin, elle indique aussi une justice sociale. Et en ce moment, on parle beaucoup de justice sociale. Est-ce que la façon qu'ils ont de vouloir obtenir la justice sociale est la bonne? Non, mes frères et sœurs. Non. Mais c'est le monde. Oh, pardon à ceux qui m'en veulent de dire qu'il y a le monde et nous. Mais il y a le monde et les chrétiens. Et c'est tout, et c'est comme ça. Mais dans le royaume de Jésus-Christ, là où vivent les véritables chrétiens, ce n'est pas la même chose que dans le monde. Quand on lit les prophètes, quand on lit la loi, on voit nettement que la justice sociale, elle touche à des domaines comme par exemple la libération de l'oppression, la promotion des droits civils. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est, on a défilé dans les rues pour ça. La justice des tribunaux, mais c'est exactement pour ça que les magistrats font grève et tout. Non, attendez, on parle d'un autre. Si vous lisez les prophètes, vous allez vous apercevoir que la justice sociale, elle touche à l'intégrité dans les affaires. Elle encourage une bonne vie dans la famille, une bonne conduite dans la famille. Alors, on est exhorté ce matin à avoir faim et soif de justice, non seulement pour nous-mêmes, pour avoir une bonne relation avec Dieu, et aussi pour nous-mêmes, pour avoir une bonne relation avec les autres, pour être en paix, pour être tranquille, mais aussi pour apporter quelque chose, pour changer quelque chose dans la société. Je me rappelle que le cinquième ange de l'Apocalypse, Luther, il écrivait, écoutez bien ce qu'il écrivait, « Vous n'avez pas reçu l'ordre de vous retirer dans un coin ou dans les déserts, et si vous y êtes déjà retiré, revenez en courant de votre retraite et offrez vos mains, vos pieds, tout votre corps, mettez en jeu tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez. Cela requiert une faim et une soif de justice que rien ne peut rassasier et qui a pour seule préoccupation l'accomplissement et le maintien du droit au mépris de tout obstacle. » Et il terminait en disant, Si vous ne pouvez pas convertir le monde entier, faites néanmoins ce que vous pouvez faire. Il était terrible, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela? Eh bien, c'est le grand secret pour avancer. Jésus dit heureux. Heureux, ça veut dire en marche, avancer, progresser. Pour être en marche, pour être heureux, parce que la promesse d'être désaltéré n'est donnée qu'à ceux qui ont faim et soif, pas aux autres. Mais de justice, pas de la justice selon le monde, mais de la justice selon Dieu. Alors, si vous vous êtes lassé dans votre vie chrétienne, si vous êtes découragé, si vous êtes assis sur le bord du chemin en train de vous lamenter sur votre passé, frères et sœurs, maintenant ayez faim et soif de justice pour l'avenir. Mais pourquoi il dit que vous ne serez jamais rassasiés, dit Luther. Et pourtant Jésus dit, mais ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Est-ce que je pourrais être un jour rassasié? Il faut que vous le sachiez clairement, pas sur cette terre. Pas sur cette terre. Pourquoi? Parce que c'est juste dans la phrase, faim et soif, faim et soif. La faim et la soif, c'est satisfait juste pour un temps afin de réapparaître après. Ce n'est pas parce que j'ai bien mangé hier que je ne vais pas manger aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui doit perdurer. C'est pourquoi Jésus nous dit que si nous avons faim et soif de justice, nous serons rassasiés, mais nous serons rassasiés dans la mesure, à condition de ne pas cesser de boire à cette source. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, il parle de l'eau du monde. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, alors à ce moment-là, il n'aura jamais soif. Jean chapitre 4, verset je ne sais plus combien. Buvez les paroles de Jésus. Buvez les paroles de notre justice. Et faites sa volonté sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et vous étancherez ainsi votre soif dans la continuité de la pratique de la justice légale, morale et sociale. Mais c'est dans la continuité. Ne croyez jamais que vous avez atteint le but. Ceux qui croient qu'ils ont atteint le but, c'est parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont fait dans le passé. Et quand vous écoutez leurs témoignages, ils vous racontent toujours des choses qu'ils ont fait il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Moi, je prends toujours, et ça fait depuis le début de ma vie chrétienne, je prends pour modèle le frère Osborne. Regardez le frère Osborne, 87 ans, et il est en train de partir en Inde pour faire encore une croisade devant des centaines de milliers de personnes. Il continue toujours son travail qui consiste à atteindre ceux qui ne sont pas atteints. Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrêtera jamais. Il mourra un micro à la main sur une estrade, cet homme. S'il meurt, parce que c'est très possible que Dieu l'enlève. Vous voyez, la conscience de la pauvreté, la douceur, les pleurs, la faim et la soif, telles que je vous ai enseigné, ces choses-là, ne doivent pas cesser. Parce que la justice totale ne triomphera qu'au jour du jugement dernier. C'est seulement là que ça triomphera. Après ce jugement, il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre, et sur cette nouvelle terre, il régnera la justice. La Bible dit qu'elle habitera là, la justice. On trouve ça dans 2 Pierre 3:13. Mais pas ici. Ici, on va pouvoir améliorer un petit peu. Dans la mesure du possible. Mais nous devons nous y atteler. Croyez-vous que frère Osborne, de temps en temps, n'est pas découragé quand il voit, par exemple, qu'il était évangélisé des pays d'Afrique et que des milliers de personnes se sont converties? C'est formidable. Et bien ensuite, il voit, quelques années plus tard, des massacres et des horreurs qui se passent dans ces mêmes pays. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont commis ces choses-là. Mais c'est décourageant. On se dit, alors tout ce qu'on fait, ça apporte quoi? Des moments, c'est vrai que ça peut être décourageant. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas regarder dans le passé, il faut toujours aller pour faire pour l'avenir, pour améliorer l'avenir. Tout vrai croyant attend le jour où ça sera parfait. Il soupire après le jour où ça sera parfait. Il œuvre, il marche, il va de l'avant, il est heureux dans ce sens-là parce qu'il est dans cette direction. Il va dans cette direction. Tout vrai croyant ne cherche pas premièrement à s'amasser des trésors sur la terre. Ce n'est pas vrai. Il dépense et il se dépense pour le royaume et la justice de Dieu qui viennent. Vous voyez, frères et sœurs, les quatre premières béatitudes, elles établissent une progression qui est logique. Il faut commencer par être pauvre en esprit, reconnaître donc notre faillite spirituelle devant Dieu, mais pas seulement ça. Ensuite, il faut déplorer nos péchés, notre propre état de péché, l'état de péché du monde, tout en pleurant, comme les prophètes ont pleuré, comme Jésus ont pleuré autrefois. Et puis ensuite, il nous est possible d'être doux, c'est-à-dire d'être humble, parce que notre pauvreté spirituelle, quand on en a conscience, quand on l'a reconnue, quand on l'a confessée, elle détermine un nouveau comportement. Un nouveau comportement envers les autres, un nouveau comportement envers Dieu. Alors on peut être humble, confesser notre péché, ça nous amène finalement à avoir faim et soif de justice. Et puis, après, il y a les autres béatitudes. Les quatre premières, c'est dans notre relation avec Dieu, et les quatre suivantes, c'est dans la relation avec les autres. Parce qu'en fait, quand on fait miséricorde, c'est bien les hommes qu'on fait miséricorde. Quand on cherche la paix, on cherche bien la paix avec les gens. Quand on est persécuté, c'est bien par des gens. Et c'est ce qui fait que ceux qui sont purs se reconnaissent dans leur attitude envers les autres, pas seulement dans leurs attitudes religieuses. Et c'était ça que Jésus reprochait aux religieux de son temps. C'est que c'était juste, ils avaient une très bonne attitude devant Dieu, apparemment. Mais le fait, leur façon de se comporter avec les gens du peuple montrait que, en réalité, les quatre premières béatitudes, c'était juste de l'apparence, parce que les quatre dernières, c'était de la gnognotte. La cinquième béatitude, c'est « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est quoi la miséricorde? Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle levait les yeux au ciel, elle disait « Miséricorde !» Quand il y avait quelque chose qui la dépassait. « Oh, miséricorde !» Comme il y en a qui disent « D'où Joseph ?» Hein? Miséricorde. La miséricorde, c'est un mélange de... C'est de la compassion et de la grâce. C'est la compassion envers ceux qui ont besoin. On a toujours compassion envers ceux qui ont besoin, mais il y a un résultat à la miséricorde qui est différent de celui de la grâce. Le résultat de la miséricorde, c'est un soulagement. Vous pouvez soulager les autres. La grâce, ça produit une purification intérieure, mais la miséricorde, elle apporte du secours, elle apporte une guérison. Celui qui est dans la misère, celui qui est dans la détresse à cause de son péché, et vous lui faites miséricorde, ça lui donne du secours, ça apporte une guérison dans la situation, dans son cœur, etc. Voilà ce que c'est que la miséricorde. Jésus, en nous disant d'être miséricordieux, ne nous dit pas avec qui on doit être miséricordieux. Et ça peut être étonnant. Pourquoi il ne dit pas avec qui on doit être miséricordieux? Il ne juge pas que c'est utile de nous donner la précision. Pourquoi? Parce qu'il peut... Il se place, lui, comme modèle. Et en fait, lui, il est miséricordieux avec tout le monde. Donc, il ne va pas commencer à nous donner des détails. C'est avec tout le monde, dans tous les cas et dans toutes les situations. Nous devons être comme le Père est. C'est ce qu'il a dit, soyez parfaits, comme le Père est parfait. Alors, les terriens se montrent très souvent impitoyables. Et même l'Église se montre très souvent impitoyable parce que très souvent, elle oublie sa vocation. Vous savez, c'est tellement plus attrayant, c'est tellement plus facile de se venger que de pardonner. C'est facile. Ça défoule, comme on dit. Et Jésus, lui, il promet que si vous pardonnez aux autres leurs fautes, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. On trouve ça dans Matthieu 6, 14. Maintenant, ça ne veut pas dire que je mérite la miséricorde de Dieu parce que j'ai été miséricordieux envers les gens qui m'ont offensé. Ça ne signifie pas que nous méritons que Dieu nous pardonne parce que nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. Ça ne veut pas dire ça. Au contraire même. On ne peut pas bénéficier, mes frères et sœurs, de la miséricorde et du pardon sans s'être repenti. C'est clair. Et nous ne pouvons pas prétendre que nous nous sommes repentis si nous ne manifestons pas la miséricorde à l'égard des pécheurs, à l'égard des autres. Tout ça, c'est un tout. Mais le début, c'est la repentance. C'est prendre conscience premièrement soi-même de sa pauvreté spirituelle. C'est prendre conscience personnellement premièrement soi-même et pleurer sur soi-même premièrement d'abord. Ça ne nous rend pas méritants. Méritants de quoi? D'avoir demandé pardon. Mes frères et sœurs, Rien ne peut nous amener à pardonner sinon l'assurance que Dieu nous pardonne déjà, nous, et puis qu'il pardonne aussi les autres. Parce que celui qui vous a offensé, Dieu lui a déjà pardonné. Alors, comme nous sommes citoyens du royaume de Dieu, où Dieu règne, où le roi est celui qui pardonne, nous sommes tenus de faire comme le roi. On n'est pas, on peut pas être plus royaliste que le roi. On ne va pas pardonner si Dieu lui-même n'a pas pardonné. Si Dieu lui-même a pardonné, on ne va pas dire non, moi je ne pardonne pas. Bon Dieu, tu te débrouilles, Dieu, tu pardonnes si tu veux, mais moi je ne peux pas. Non, on ne peut pas. Les doux sont des miséricordieux. Voilà pourquoi il parle d'abord d'être doux, d'être humble. C'est vrai, mes frères et sœurs, que manifester de la douceur, c'est reconnaître devant les autres qu'on est soi-même pécheur. On n'est pas impitoyable, implacable, un juge, dur, sévère. Puis être miséricordieux, c'est éprouver de la miséricorde pour les autres. Parce que eux aussi sont des pécheurs. Le problème, c'est que les offenseurs se trompent. Peut-être vous êtes un offenseur. Peut-être vous êtes un offensé, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un vous a offensé et il se croit offensé lui-même. Alors ça rend un peu difficile la communication. Et c'est ça qui rend la communication difficile. C'est que chacun se trouve de bonnes raisons d'avoir dit ceci ou d'avoir fait cela. Alors comment s'en sortir dans cette histoire? Jésus ne nous le dit pas. C'est pas important. Nous n'avons pas à rester sur notre position de propre juste. Nous sommes tous pécheurs. Chacun a sa part de faute. Et jouer aux laborantines qui fouillent les excréments, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Un vrai disciple ne fouille pas les excréments. Un vrai disciple, s'il est offensé, il pardonne, point. Comme Jésus nous a pardonné, comme Jésus nous a fait miséricorde. Et, par exemple, vous prenez le bon larron sur la croix, il a été pardonné, il a été acquitté par Jésus, sans tribunal inquisitorial. Jésus n'a pas dit, bon, eh bien, je t'écoute, t'as fait quoi, tu regrettes quoi, non. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ainsi qu'on doit faire. Il nous montre comment on doit faire. Dans toutes les situations, celui qui était une croix à côté de lui, il avait certainement commis des choses quand même assez répréhensibles, à mon avis, non? Soyez celui qui pardonne comme Dieu pardonne, jetant les péchés des autres dans la mer de l'oubli. C'est ce que Jésus a fait avec nos péchés, c'est ce que nous devons faire avec les péchés des autres, les jeter dans la mer de l'oubli. Alors très souvent, l'offenseur ne veut pas accomplir sa part dans l'affaire. Il ne veut pas vous accorder le pardon et comme Jésus le lui ordonne, Jésus ordonne ça à tout le monde. Mais il y a des fois, l'offenseur, il ne veut pas. Qu'est-ce que la Bible dit de faire? Eh bien, laissez-le. Laissez-le entre les mains de celui qui sait tout. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que vous pensez, et c'est trop difficile. Vous n'êtes pas un laborantin expérimenté pour aller fouiller ces excréments-là. Vous avez jeté son péché dans la mer de l'oubli, laissez-le là-dedans. Cette personne, elle veut faire ressortir toutes ces choses sans cesse, ce passé pénible sans cesse. C'est son droit, elle peut. Pardonnez-lui de prendre ce droit. Laissez-lui son droit de jouer à la laborantine fouilleur d'excréments, s'il veut. Mais vous, retirez-vous. Retirez-vous. Paul, il est très conscient de cet état de fait. On va lire Romains 12, 18, 21. Romains 12, 18, 21. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors, c'est très souvent très mal compris ce texte, très souvent très mal compris. Laisse agir la colère de celui qui est en colère contre toi, qui ne veut pas pardonner comme Jésus a dit qu'il fallait que lui aussi pardonne. Et puis laisse agir la colère de Dieu. S'il veut se mettre en colère, laisse-le agir. Laisse agir celui qui paye, laisse agir celui qui rétribue ceux qui ne veulent pas se soumettre tout en vivant dans le royaume ou en prétendant vivre dans le royaume. Mais, il y a un mais là, ce verset 20, mais s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est en prison, va le trouver. S'il est malade, va prier pour lui pour qu'il soit guéri. Va à l'hôpital le voir. Voilà. Tu amasseras ainsi des charbons ardents sur sa tête. Ça veut dire quoi? Eh bien, autrefois en Israël et dans les pays comme ça, là-bas, autrefois, le feu, c'était quelque chose de sacré. Et on avait, tout homme, toute femme avait un devoir, c'était de partager le feu, gratuitement, avec les autres, avec quiconque demande. Si par exemple, vous rappelez la chanson « Au clair de la lune, mon ami Pierrot », tu avais le droit d'aller au milieu de la nuit pour demander chez ton voisin, il devait, c'était une loi morale de donner du feu à celui qui n'en avait plus. Ton feu s'était éteint, ton voisin, même quelqu'un de méchant pouvait venir frapper à ta porte, tu devais lui donner. Et quand tu lui donnais, qu'est-ce que tu faisais? Alors, tu lui donnais quoi? Tu lui donnais quelques braises. Et à l'époque... Et si vous allez en Afrique et dans les pays là-bas, vous allez voir, les gens, ils portent tout sur leur tête. Ils avaient des cassettes en métal, alors ils mettaient un petit coussinet en crin ou quelque chose comme ça, et par-dessus, ils mettaient la petite boîte en métal, et avec les quelques braises, et ils s'en allaient, tu lui avais donné la vie. Mettre des charbons ardents sur la tête de ton ennemi, c'est lui donner de quoi vivre, c'est lui donner une bénédiction, c'est le bénir. Laisse agir la colère de Dieu, mais toi de ton côté, prie pour ton ennemi, fais-lui du bien, rends-lui le bien pour le mal, donne-lui à manger s'il a faim, donne-lui à boire s'il a soif, si tu demandes quelque chose, donne-lui, bénis-le. Il sera peut-être, Dieu va peut-être être en colère contre lui, mais la colère de Dieu va s'apaiser parce que toi tu auras été entre celui qui t'a offensé et Dieu, tu vas être celui qui bénit, celui qui met de la bénédiction, celui qui met de la paix. Voilà ce que Jésus demande. Tu pries pour celui qui t'offense, afin que la colère de Dieu ne le détruise pas. Comme Moïse a fait. Dieu voulait détruire Israël. Et Moïse s'est tenu entre Dieu et Israël et il a plaidé. Il a dit, non mon Dieu, non, fais pas ça. On peut se tenir comme cela. Alors vous voyez au verset 21, il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est-à-dire, agis selon les règles du royaume de Dieu et non pas selon les règles des terriens. Les règles des terriens ne sont pas parfaites. C'est en faisant comme ça que tu vas surmonter le mal par le bien, en observant les règles du royaume, en faisant comme Dieu dit qu'il faut faire, et non pas comme les gens de ce monde disent ou pensent qu'il faut faire. Ils sont sans Dieu. Ils écoutent leurs instincts, leur logique à eux. Nous, on en a une autre. Fais tout ton possible pour que la paix existe. Fais tout ton possible pour que la paix soit rétablie. Mais toujours selon les lois de Dieu. Et si l'autre, il rejette ce que tu veux lui offrir comme paix, ta miséricorde et tout, prie pour lui, pleure devant la face de Dieu, pleure, heureux ceux qui pleurent, hein? Mais surmonte le mal, c'est-à-dire ne laisse pas non plus ta douleur, cette affaire, te bouffer. Il arrive un moment où, voyant que la paix n'est pas possible, eh bien, tu secoueras la poussière de tes vêtements, et puis c'est tout. Parce qu'il faut pouvoir aussi librement faire les autres choses qui nous restent à faire. Je lisais que, non je lisais pas, je crois que j'ai vu quelqu'un à la télévision qui disait ça, ou plutôt non, c'est sur Internet je crois, c'est sur Internet, oui. Quelqu'un qui disait, il y a 3 millions de personnes qui embêtent 57 millions de personnes en ce moment en nous coupant les moyens de rouler, etc. Enfin, c'est pas 3 millions de personnes qui bloquent l'essence, mais c'est vrai que c'est une minorité quand même. Eh bien, il y a... Celui qui t'offense, mais il est en minorité par rapport à tous les autres. Alors, ne laisse pas le mal, c'est-à-dire cette chose désagréable, t'enfoncer, te noyer. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres gens à s'occuper. Voilà, c'est tout. Amen. Surmonte le mal par le bien, c'est-à-dire en faisant le bien. En faisant vis-à-vis de celui qui t'a offensé en face et pour lui ce que tu dois faire selon le royaume. Et puis ensuite, occupe-toi du reste, des quelques milliards d'autres personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu les bénisses. Amen. Secoue la poussière de ton vêtement. Ne laisse pas ta vie se gâcher. Au verset 18, le verset 18 signifie aussi que malheureusement, eh bien, la paix n'est pas toujours possible. La paix n'est pas toujours possible. Parce que la paix, elle provient de l'amour. Et l'amour, c'est toujours au minimum une histoire à deux places. Au minimum. Et s'il y en a un des deux qui ne veut pas, qui manque d'amour, ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous aimez, mais voilà. Vous êtes tout seul dans votre coin à aimer, puis voilà. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer comme Jésus veut qu'ils t'aiment. Jésus leur ordonne aussi à eux de t'aimer, mais ils ne veulent pas. Mais laisse-les entre les mains de Dieu, laisse-les. Par contre, toi, aime tous les gens comme Jésus aime tous les gens. Vous voyez, on ne peut pas se défiler. On ne peut pas dire c'est la faute de l'autre. On ne peut pas dire j'ai fait tout ce que je peux, maintenant j'en ai ras-le-bol. Ça, ce n'est pas une bonne façon de faire non plus. Mais laisser les choses dans les mains de Dieu en gardant toujours de l'amour, du respect, et puis prier, et puis les bénir, et si on apprend qu'ils sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin, et faire toutes ces choses. C'est ça être miséricordieux. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est le seul moyen pour avancer. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avancer. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond toute votre vie. Est-ce qu'on était fait pour ça? Non. On aime bien tourner en rond chez Mickey, sur les manèges, mais ça va, un moment. Hein. Après, la vraie vie, ce n'est pas tourner en rond. La vraie vie, c'est aller en ligne droite vers notre Seigneur en hauteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus de m'avoir permis de terminer ce message et de bénir mes frères et sœurs avec cela. Qu'ils puissent y réfléchir et que chacun se concentre sur ce que toi tu veux pour eux et non pas ce que nous imaginons que Dieu veut pour les autres. Merci Seigneur de nous permettre d'être clair à ce sujet et que nous fassions vraiment personnellement, chacun pour soi et pour le bien de tous et ta gloire, ta volonté. Merci Jésus. Amen. Amen.